Premièrement, je voudrais remercier Denis pour l'invitation à cette séminaire sur le problème John Locke. Et deuxièmement, je voudrais le remercier pour avoir donné ce titre fort suggestif au séminaire, ce qui m'a un peu aidé à mettre de l'ordre dans les pensées confuses que suscite la lecture de l'œuvre complexe de John Locke, pour Denis, mais aussi pour moi. Ceci fait aussi partie du problème John Locke, mais de problèmes liés à John Locke, il y en a plusieurs. Celui qui nous retiendra le plus ici concerne le droit politique, plus précisément sa théorie. Comment la faire, cette théorie? Sur les bases avec lesquelles Locke se débat, il n'est pas évident qu'elle puisse se faire, ce qui est bien sûr aussi un problème. Pour nous mettre en mesure de comprendre en quoi il y a problème, il nous faut faire un petit détour par l'œuvre d'un autre philosophe anglais dont le legs a posé obstacle au projet de Locke d'élaborer un droit politique. Je parle ici de Thomas Hobbes et de la souveraineté dont la paternité remonte à lui, non de plaise à Jean Bodin. Vous vous souvenez bien du mythe dans lequel Hobbes nous raconte comment est né le Léviathan, ce grand monstre auquel nous sommes redevables pour nous protéger de nous-mêmes. Et vous vous souvenez peut-être aussi que cette fondation du pouvoir se fait dans une condition d'égalité totale. Cette égalité découle de la menace constante qui plane sur la vie de chacun dans l'état de nature. Elle a pour effet de rendre caduque toute la différence naturelle entre les hommes et de dissoudre tout le lien qui nous lie les uns aux autres. L'intuition qui est au cœur du projet de Hobbes est que la différence naturelle ne peut fonder aucun titre au pouvoir, que tout titre doit être fondé artificiellement, par et dans la volonté, et donc par et dans le droit. L'opération de base de Hobbes est donc d'isoler chaque individu, de le désimpliquer du tissu social dont il fait partie pour fonder l'idée d'une égalité de tous devant la loi. Cette idée est une pierre angulaire de notre patrimoine juridique, même démocratique. Mais elle a quand même l'inconvénient considérable d'incliner la description du pouvoir dans un sens bien déterminé. Pour isoler l'individu en théorie, pour montrer que la souveraineté naît d'un acte inconditionné, qu'elle est donc œuvre de liberté, il faut souscrire une fiction qui porte sur la préhistoire de la souveraineté. Il faut croire, ou plutôt faire semblant de croire, qu'il n'y en ait pas, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas de préhistoire. Pour qu'il y ait du pouvoir souverain en théorie, il faut qu'il n'y ait rien qui le précède, dans les concepts, mais aussi dans le temps. La genèse de la souveraineté apparaît donc toujours comme une incision radicale, un hiatus, ce qui explique, à mon avis, la force d'attraction que cette notion exerce depuis toujours sur des esprits radicaux. L'impératif de fonder le pouvoir dans et par le droit impose à la théorie de faire table rase de la facticité du pouvoir. La théorie doit feindre de rien savoir sur les intérêts qui ont poussé à la création de la souveraineté et sur les institutions à travers lesquelles cette création s'est faite. Faute de devoir admettre que tout pouvoir ne découle pas de l'acte d'autofondation de la société et que tous ne sont donc pas égaux, la théorie reste coincée dans ce cas limite d'interaction sociale qui est l'état de nature. Pour la théorie, la souveraineté est donc un peu comme un trou noir à l'intérieur duquel on ne voit plus rien, sauf un fond indifférenciée de suggestions généralisées, ce qui rend la théorie aveugle et par conséquent incapable de faire l'anatomie du pouvoir, de détailler son articulation constitutionnelle. À cela se joint une autre considération qui touche à la légitimité. Le pouvoir souverain se fonde sur la surpuissance, sur le fait qu'il surplombe de par sa force tous les autres pouvoirs, au point de réduire à néant et faire disparaître de vue toutes les différences entre eux. La souveraineté se fonde donc sur un fait qui est normativement neutre, dans le sens où elle implique aucune restriction quant aux fins à laquelle le pouvoir souverain peut être utilisé. Et étant normativement neutre, et posant l'institution d'un autre comme le impératif principal, on pourrait dire que le pouvoir souverain se situe en quelque sorte au-delà du bien et du mal, le bien et le mal étant des catégories qui n'ont de prise qu'à l'intérieur d'un ordre constitué. Tels sont les deux problèmes liés à la fondation du pouvoir dans la souveraineté, les deux problèmes auxquels John Locke doit faire face. D'un côté, cette fondation du pouvoir dans le droit rend la théorie incapable de décrire le pouvoir tel qu'il existe réellement. Et de l'autre côté, elle semble aller de pair avec et même produire une cécité morale dans la théorie du droit politique. Et je vous rappelle là qu'à la base, théorie qui vient du grec théorein veut dire contemplation et fait donc ce qui donc fait référence au fait d'avoir quelque chose sous les yeux. Donc, deux problèmes. Si nous consultons les paragraphes 81 du premier traité du gouvernement, qui est un paragraphe programmatique, nous voyons comment ces deux problèmes se rencontrent et s'entrelacent dans la pensée de Locke. Et moi, je suis allé chez Vrin pour m'acheter les deux traités en français parce que j'avais l'ambition de pouvoir lire cet extrait qui est très long en français. Donc je vais les trouver. C'est donc le paragraphe 81 dans le premier traité. Je lis. C'est donc en vain quand l'on parle de suggestion et d'obéissance, si l'on ne dit pas à qui nous devons obéir. Serais-je tout à fait persuadé que le monde a besoin de magistrature et de commandement, je n'en garderais pas moins une entière liberté tant que l'on ne saurait pas quelle est la personne habilitée à exiger mon obéissance. S'il n'existe aucun signe permettant de reconnaître et discerner celui qui a le droit de commander aux autres, pourquoi ne serait-ce pas aussi bien moi que n'importe qui? Certes, la soumission au gouvernement est un devoir pour chacun, mais comme elle consiste simplement à se soumettre à la direction et aux lois des hommes investis de l'autorité pour commander, l'on ne fera jamais d'un homme un sujet rien qu'en le persuadant qu'il existe une puissance royale dans le monde. Il faut encore des procédés pour qualifier et connaître le titulaire véritable de cette puissance royale. Autrement, je saute un peu parce que ça devient vraiment trop long. Autrement, il n'y aurait pas de différence entre les pirates et les princes légitimes. Il faudrait obéir à qui a la force sans chercher plus loin. La couronne et les sceptres deviendraient l'héritage exclusif de la violence et de la rapine. Donc, fin de citation. Ce que nous montre cette citation est que l'articulation du pouvoir et sa légitimité ont partie liée pour Locke. Le fait que nous ne disposons pas de critères qui nous permettent d'identifier le souverain nous laisse douter de la bien-fondée de son pouvoir. Et donc, quelles sont donc les opérations par lesquelles Locke se ménage un espace théorique pour développer sa conception du droit politique? Cette question ouvre sur un vaste champ de recherche que je ne peux même pas survoler, mais pour faire très simple, On peut dire que le plus important entre toutes ces opérations consiste dans un changement de perspective théorique. Au lieu d'enquérir sur les fondements du pouvoir, c'est-à-dire les actes qui l'ont fait naître, ce qui est la question de l'école du contrat social, l'objet de la théorie pour Locke doit être la façon dont le pouvoir est distribué entre organes de gouvernement et exercé par ceux qui les détiennent, c'est-à-dire l'effectivité ou la pratique, si vous voulez, du pouvoir. Il y a donc changement de perspective qui correspond à un changement d'objet. Et je tiens à vous signaler qu'il ne s'agit pas là d'un simple passage à la description positiviste. Loin s'en faut. Comme je viens de dire, la théorie du droit politique doit aussi s'assurer de la légitimité du pouvoir. Seulement, elle ne peut plus le faire à travers la reconstruction de la fondation du pouvoir. Il faut le faire autrement. Donc, passage de la fondation à la pratique. Ce changement de perspective permet à Locke de mettre en évidence des ressources sociales, ou plutôt affectives, qui conditionnent tout gouvernement. Ces ressources sont certes déjà à l'œuvre dans la théorie Commonwealth de Hobbes, mais elles restent aux marges de celle-ci. Parce qu'elles ont leur topos, si on peut le dire comme ça, dans ce qu'on pourrait appeler la quotidienneté du pouvoir, qui est la grande absente de l'œuvre de Hobbes. Dans cette quotidienneté, les interactions entre les hommes et entre les souverains et les sujets ne se règlent plus par la force, mais par des moyens beaucoup plus doux. À ce propos, je vous lis un extrait de l'essai de Locke sur la tolération que je crois, donc le titre en français, je crois, est pas essai sur la tolération, mais essai sur la tolérance. Though force cannot master the opinions men have, nor plant new ones in their breasts, yet courtesy, friendship, and soft usage may. For several men whose business or laziness keeps them from examining, take many of their opinions upon trust, even in things of religion, but never take them from any man of whose knowledge, friendship, or sincerity they are not well assured, which it's impossible they should be of one that persecutes them. Donc, dans la perspective où se place Locke, la force n'est plus l'élément de l'interaction sociale comme c'était le cas dans la théorie du Commonwealth de Thomas Hobbes. Le gouvernement ne se fait plus par la force, mais par des moyens de la civilité, la courtoisie, l'amitié et même le bon mœur. Ces moyens peuvent paraître désespérément faible par rapport à la force coercitive du Léviathan, mais parce qu'ils tablent sur et à leur tour renforcent ou même produisent la concorde entre les hommes, ils sont capables d'assurer ce que la force ne peut pas, l'existence d'un ordre stable. Le droit politique de Locke se place donc d'emblée dans une perspective qui est bien différente de celle de Hobbes. Et le cas entre l'état de nature et ce monde pacifique et bien ordonné mesure toute la différence entre la souveraineté et le droit politique tel que le décrit Locke. Le choix d'où se positionner sur l'arc qui va de la souveraineté au droit politique d'Hobbes à Locke se fait et par Locke fut fait en fonction de maintes considérations. Dans certaines conjonctures, il y a des choix qui semblent s'imposer à nous. Dans la période qui est la nôtre, le sentiment de vivre sous une menace permanente nous a rendu très sensibles au discours sur la sécurité et sur la nécessité d'un pouvoir souverain qui nous protège. Locke aussi vivait et pensait sous de telles contraintes. Son choix méthodologique peut, au moins en partie, s'expliquer par le constat de l'échec de la politique répressive menée contre le dissenters après 1660. Mais il faut reconnaître qu'il y a dans ce choix aussi un côté performatif, c'est-à-dire qu'en optant de décrire le monde de telle ou telle manière, on s'engage pour la réaliser en tant que telle. Faire la théorie du monde est toujours aussi le créer comme tel. La théorie est weltbildend, comme dirait Heidegger. Dans la plupart des cas, la théorie n'est dotée que d'une force de création très faible, mais celle de Locke fait d'exception dans ces cas-là, parce qu'elle, comme vous le savez très bien, a eu un retentissement social très considérable. Donc, en se plaçant dans cette perspective monde, si vous me permettez cette expression, Locke se donne la possibilité de poser la question de la légitimité du pouvoir d'une autre manière, au lieu de demander sous quelles conditions et en échange de quoi les hommes seraient prêts à aliéner leur liberté, il peut chercher les ressorts de la pratique du pouvoir, sur la présupposition, ce qui est crucial, qu'il y en a de tels ressorts, ce qui est un point sur lequel nous avons à revenir. Au lieu de se focaliser sur le moment de la création du Léviathan et l'échange liberté-suggestion à travers lequel cette création s'accomplit, Locke peut expliquer et par là justifier le pouvoir à partir de ce qu'il a rendu possible. À la différence de Hobbes, qui était contrainte pour des raisons méthodologiques, de nier l'histoire et d'affirmer la nouveauté radicale du pouvoir souverain, Locke peut faire appel à tout ce qui précède et conditionne le politique. Parmi toutes les sources dans lesquelles il puise, la plus importante et la plus puissante est sans doute celle de la famille. Et bien sûr, Locke n'est pas le premier à avoir proposé une analogie entre la famille et la société ou la communauté politique. Dans le premier traité du gouvernement, il traite de l'œuvre de Filmer et dans le, qui ne parle que de ça. C'est donc une vieille idée. L'entrée de l'œuvre de Locke et sa nouveauté, c'est qu'il reprend cette vieille idée à partir de bases qui ont été jetées par Hobbes. C'est donc sur des bases d'une conception artificielle du droit politique qu'il reprend cette idée d'un humanisme dans le droit. Et on pourrait dire, je pense que l'humanisation du droit politique moderne commence avec lui, parce que c'est exactement à partir de ces bases, de bases qui ont été jetées par Hobbes qu'il reprend cette idée. Donc, dans son œuvre, nous voyons comment la personne souveraine qui dans l'œuvre de Hobbes et son visage, prend maintenant un aspect archiconnu. Là, on est dans le deuxième traité, paragraphe 75. Il était donc facile et presque naturel pour les enfants, par un consentement tacite et presque inévitable, de frayer la voie à l'autorité du père et à son gouvernement. Pendant leur enfance, ils s'étaient accoutumés à suivre sa direction et à lui soumettre leurs petits différends. Une fois devenus des hommes, où pouvaient-ils trouver un meilleur chef ? Donc, mettant à son profit la force sentimentale dont la famille est porteuse, Locke affirme que par un changement imperceptible, les pères sont devenus des monarques politiques de leur famille et qu'avec le temps et les bonnes œuvres qui ont été accomplies d'une génération à l'autre, ils sont réussis à fonder des royaumes. Il s'agit là d'un montage où le pouvoir politique est investi par le familial, où l'ordre familial est superposé sur l'ordre politique, où le soin porté à l'enfant vient donner une nouvelle allure aux relations politiques. Et ce montage-là est tributaire du choix qui a fait Locke de se placer dans une perspective monde où les relations entre les hommes ont un telle épaisseur qu'on peut le décrire en termes familiales. Un monde qui est tellement paisible que rien ne vient perturber la transition entre régime familial et politique, et c'est-à-dire pseudo-familial. À travers ce montage entre l'ordre familial et l'ordre politique, Locke s'ouvre un accès à l'histoire du pouvoir, parce que l'amour paternel traverse le temps, du premier gouvernement jusqu'à présent. S'il n'en était pas ainsi, la société politique n'aurait pas atteint la maturité. Et là, on est un peu plus loin, paragraphe 110. Je trouve pas. Donc je vais vous donner pour ne pas devoir vous tenir en haleine plus. Je vais vous donner la citation en anglais. Donc, young societies could not have subsisted without such nursing fathers, tender and careful of the public veil. All governments would have sunk under the weakness and infirmities of their infancy, and the prince and the people had soon perished together. Donc c'est pas seulement l'incorporation n'est pas seulement de l'unité familiale dans l'exposition du pouvoir. Il s'agit aussi d'une rétroprojection dans le temps. Bien sûr, dans l'exposition du commencement des sociétés politiques, esquisse Locke à partir du paragraphe 94 du deuxième traité, il ne s'agit pas de la vraie histoire. On a affaire à une histoire feinte dont la finalité n'est pas narrative. L'exposition vient étayer le pouvoir en reliant celui qui le détient au père bien-aimé, chef de famille et fondateur de royaume. C'est du bidon, si on veut, on pourrait dire comme ça. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est qu'en en projetant la théorie en amont, jusqu'au temps immémorial où l'amour et l'autorité se confondaient dans la figure du père, Locke s'en vante une continuité dans laquelle il peut placer le pouvoir pour en reconstituer le devenir et en faire l'anatomie. Cela n'aurait pas été possible dans le monde de la souveraineté. Je vous rappelle l'avertissement que Hobbes nous donne dans la relecture et conclusion du Léviathan, où il nous explique que l'un des germes les plus certains de la mort d'un État est que le conquérant exige non seulement vis-à-vis de lui-même la soumission des actions humaines dans l'avenir, mais encore l'approbation de toutes leurs actions passées. Dans cette perspective-là, il n'y a pas de continuité, pas de recours à une histoire feinte ou non feinte, parce que, comme il le dit lui-même, dans le monde, les états sont rares dont les commencements peuvent en conscience être justifiés. Ce que Hobbes ne peut pas faire est de se mettre en retraite par rapport au pouvoir. La construction théorique est encore trop fragile pour cela. Le paradoxe est qu'en lâchant prise, le passé du pouvoir vient suppléer en quelque sorte sa légitimité selon un schéma bien connu. Puisque nous sommes arrivés jusque-là, il faut que cela ait bien servi à quelque chose. Un schéma dont nous ne nous sommes pas d'ailleurs départis, ce qui aussi passe pour ses problèmes, vu qu'à travers le droit politique, ce schéma et l'inclination édifiante qu'il véhicule ont imprégné toutes les institutions juridiques, y compris celle universitaire, où l'édification a tendance à étouffer tout questionnement sur le droit. On pourrait dire que Locke en a moins souffert que nous, mais n'empêche que ceci est à mettre à son compte et c'est donc un problème supplémentaire associé à son nom. Pour conclure cette litanie de problèmes, je vous en signale encore deux, ou plus précisément, je vous en signale peut-être un détail et un vrai problème. Le détail concerne la façon dont le droit politique réagit face à l'irruption de la violence et de la force dans l'univers bien ordonné du droit. On a essayé de récupérer cette problématique pour le droit en les traitant comme une question du retour de la souveraineté, ce qui est notamment le cas pour des lectures de inspiration schmittienne. Ce n'est pas là mon propos. L'implication entre la souveraineté et le droit politique est, à mon avis, un fait assez banal. Tout comme la souveraineté fait toujours signe vers sa propre normalisation dans le droit politique reste toujours attaché à la souveraineté. Je parle plutôt de la capacité de ces deux perspectives mondes de métaboliser la violence sans être entraîné par elle. Il me semble qu'il y a une vraie différence. Tout en étant basé sur la violence, la souveraineté est, me semble-t-il, toujours disposée à la modération. Aussi, pour se donner une continuité dans le temps, ce qu'elle n'a pas originairement. Ceci n'est pas le cas pour le droit politique. Le souverain connaît de grâce, la loi ne la connaît pas. Cette différence s'est fait aussi sentir dans l'œuvre de Locke, qui prend souvent des positions qui sont beaucoup plus sévères que celles qu'on aurait attendues et beaucoup plus sévères que celles que prend Hobbes. Et l'intuition que j'ai, c'est que les droits politiques de Locke pour s'être engagés dans la description et production d'un monde paisible et humain n'a plus de ressources pour résister à la logique de la force et de la violence quand ils font irruption. Mais cela, c'est une maintenant, ce n'est qu'une intuition qui est quand même liée au dernier problème dont je veux vous parler, le problème de force de désagrégation. De la désagrégation qui est à l'œuvre dans le monde familial politique de Locke. En me donnant comme tâche de vous montrer comment Locke en est venu à théoriser le droit politique, je passais sous silence tout un pan de son œuvre politique. Celui où il se confronte avec la transformation de la société par la monétisation de l'économie et de la vie politique. Ce sont là des questions que je ne peux même pas affleurer, tant il me mènerait loin. Il suffit de dire que pour Locke, l'introduction de la monnaie a pour effet de dissoudre et le lien organique familial entre le gouvernement et le gouverné et la forme de civilité qui nous lie les uns aux autres. Cette désagrégation qui est en même temps sociale et politique a pour effet de nous rendre plus sceptiques quant à la légitimité du droit politique, mais elle a aussi pour effet de nous rendre de plus en plus dépendants du droit politique pour nous protéger de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui nous entourent. Le problème, ou plutôt la série de problèmes que découle de cette dialectique, sera peut-être le thème d'une autre séminaire.